L'actualité cette semaine a commencé par une bonne résolution prise en ce début d'année. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a souhaité que son pays s'engage pour améliorer le sort de sa population, mais a surtout tendu la main vers son voisin du Sud. Une bonne nouvelle pour le père Michel Roncin, prêtre des missions étrangères de Paris, qui vit en Corée du Sud depuis 1974, même si bien sûr la prudence reste de mise.
Ça me rassure d'une certaine manière, parce que j'avais l'impression que la Corée du Nord ne voulait pas de dialogue avec la Corée du Sud. Du fait qu'ils ont lancé leur fusée juste avant les élections, ce n'était pas de bon augure. Il est certain que la Corée du Sud est prête, sur le plan alimentaire, à apporter son aide à la Corée du Nord. Ce sera de toute façon une détente dans la région. Mais encore faut-il que la Corée du Nord cesse de sa course à l'armement, et en particulier à l'armement nucléaire.
Jeudi comparaissaient devant la justice indienne les auteurs présumés du viol collectif d'une jeune étudiante de 23 ans à New Delhi. Le viol et la mort de cette jeune fille a provoqué une émotion mondiale. Les faits révèlent en tout cas une culture où la femme en Inde est souvent considérée comme inférieure, comme nous le confirmait Bénédicte Manier, journaliste spécialiste des droits sociaux et transformation sociale.
Le viol qui a toujours existé en Inde, finalement, est fondamentalement lié à l'infériorité des femmes, parce qu'il y a une culture patriarcale, il y a un fond patriarcal dans la culture indienne. Ce patriarcat est visible d'ailleurs surtout dans la partie nord-ouest du pays, qui est aussi la partie, et là c'est pas une surprise, qui élimine le plus les fœtus féminins. Le viol s'inscrit aussi dans un contexte de domination des castes supérieures sur les castes inférieures. Dans les zones rurales, il est fréquent que les agressions sexuelles soient perpétrées par des hommes de haute caste sur des femmes intouchables, parce que celles-ci finalement subissent une double infériorité, c'est-à-dire d'être à la fois femme et intouchable.
La guerre en Syrie continue avec son cortège de morts. La situation humanitaire reste elle aussi très précaire en raison des très nombreux déplacés, notamment vers les frontières turques et libanaises. L'hiver rigoureux aggrave aussi les conditions de vie dans des zones déjà dévastées par les combats. Fabrice Westman était récemment dans le nord de la Syrie. Ce chercheur au Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires était hébergé par Médecins sans frontières.
Les gens qui ont fui les zones de combat vivent soit chez des parents, soit louent des habitations, et soit, pour une petite partie d'entre elles, vivent dans des camps de tentes, dans des conditions extrêmement précaires du fait de l'installation de l'hiver, qui est quand même très rigoureux dans la région, où il gèle souvent la nuit, et où par ailleurs on est confronté, outre à cette crise du logement, à une crise de l'énergie, puisque il devient très difficile de trouver des carburants dans les régions contrôlées par l'opposition armée, et qui explique également qu'on manque de farine, du fait que les moulins, les minoteries ne peuvent fonctionner faute de carburant ou d'électricité.
Non loin de là, en Irak, le gouvernement a annoncé cette semaine la libération prochaine de prisonniers sunnites, parmi lesquels des femmes. En tout, 700 personnes devraient bientôt recouvrer la liberté, un geste éminemment politique, comme nous le rappelait Pierre-Jean Luisard, spécialiste de l'Irak au CNRS.
Maliki tente aujourd'hui de remplacer l'alliance avec les Kurdes par une alliance avec les sunnites. Ceci est d'autant plus vrai depuis la grave maladie de Jalal Talabani, le président irakien qui est kurde et qui jouait un peu un rôle d'intermédiaire entre les dirigeants kurdes et Bagdad. Et aujourd'hui que le Kurdistan semble plus que jamais jouer cavalier seul et larguer de plus en plus les amarres avec l'Irak, Nouri al-Maliki semble avoir fait son deuil finalement de la réintégration du Kurdistan dans le giron national irakien, et c'est la raison pour laquelle il cherche désespérément d'autres alliés qui ne peuvent être que les sunnites.
L'actualité cette semaine était dominée également par la crise centrafricaine. L'avancée de la rébellion du Séléka vers la capitale Bangui s'est confirmée. Le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé aux belligérants de négocier de bonne foi et sans conditions préalables lors des discussions qui doivent s'ouvrir le 8 janvier prochain à Libreville. Cette crise a provoqué la crainte dans la population et des milliers de personnes ont quitté leur domicile. Plus de 300 000 personnes seraient affectées dans les zones de combat et les conditions sécuritaires rendent l'assistance humanitaire difficile. C'est ce que nous expliquait Abdoulaye Sawadogo du bureau de la coordination humanitaire de l'ONU pour la Centrafrique.
On sait que la crise arrive au moment où les populations avaient déjà fait les récoltes, donc sur le point alimentaire. Au moment de la crise, on estimait qu'ils avaient des stocks, mais la question est de savoir, est-ce que ces populations ont fui dans la bourse avec leurs stocks ou pas? Raison pour laquelle il est très primordial que nous puissions avoir l'accès pour aller sur le terrain et voir exactement ceux qui sont en bourse, quelle est leur situation exacte. Du point de vue sanitaire, il y a encore des équipes restreintes qui sont sur place, qui continuent d'apporter l'assistance sanitaire. Il y a des humanitaires qui travaillent dans le secteur de l'eau, qui apportent une assistance de telle sorte que les populations puissent avoir quand même suffisamment d'eau potable pour pouvoir se nourrir.
Et terminons cette rétrospective en laissant la parole à Frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée. Cette année a commencé à Rome dans la ferveur avec la venue jusqu'à mercredi de 40 000 jeunes de toute l'Europe. Ils sont repartis chez eux gonflés d'espérance de cette nouvelle étape du pèlerinage de la confiance.
Les jeunes sont repartis avec une grande joie de l'accueil à Rome, dans les paroisses, dans les communautés religieuses et surtout aussi de la prière avec le Saint-Père sur la place Saint-Pierre. Je pense que c'est un moment vraiment de l'Évangile qui va marquer les cœurs pour longtemps. Maintenant, nous espérons que les jeunes peuvent regarder l'avenir avec joie et espérance. L'avenir qui est souvent difficile pour eux, concernant des difficultés économiques, le chômage, etc. L'Église peut vraiment donner une espérance aux jeunes d'aujourd'hui. C'est ça que nous retenons de cette rencontre.